Picasso. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
100, 2, 1.
Midi, pile poil, les amis. Denis Gravel qui est en studio. Denis, j'ai pas le choix, faut que je te le dise. On est en train d'assister à un nouveau chapitre de ce long livre qui a pour titre « Le troisième lien ». Ça se passe de même. On commence à avoir de l'information là, concernant la fameuse conférence de presse de Geneviève Guilbeault.
C'est-tu une fiction, ton livre? Ou
Je sais pas.
On le sait pas, hein?
Je sais pas. À un moment donné, il va falloir qu'on m'explique pourquoi les projets ici sont beaucoup plus longs qu'ailleurs sur la planète. Pourquoi un projet comme un troisième lien devient comme l'emblème de la grosse pollution environnementale au Québec. Tu sais, c'est juste un troisième lien ou un deuxième lien fiable. Je trouve ça incroyable. Mais demain, c'est un nouveau chapitre, mon ami.
Ouais, puis il y a des médias qui ont des informations à savoir quel serait finalement le corridor privilégié par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on va nous mettre dans cette présentation-là demain? Geneviève Guilbeault, donc vice-première ministre et ministre des Transports, qui devrait présenter le corridor central comme étant celui retenu pour un troisième lien. On ne sait pas encore si c'est un tunnel-pont, un bitube, un monotube, un tritube, un quatre-tube. Ça, on n'en a aucune espèce d'idée. Mais la CAQ, donc, favoriserait le lien partant du secteur Saint-David, près, entre autres, de la raffinerie Valero.
Ouais. Et c'est la sortie, en fait, de la raffinerie Ultramar.
Oui, exact, ouais. Exact. Puis, donc, le lien traverserait le fleuve et deviendrait un tunnel pour relier soit Robert Bourassa, soit l'autoroute 40 dans ce secteur-là. Donc, on se sort du cœur du centre-ville de Québec, mais ça, on s'en doutait déjà, pour aller un petit peu plus vers l'ouest.
Ouais, le choix du tracé numéro 2, là, parce que c'était le tracé numéro 2, c'est vraiment pour essayer d'apaiser les craintes là, du maire Marchand qui a peur que dans le secteur de Beaumont, il y ait de la grosse densité puis qu'il y ait des résidents qui aillent s'établir là. J'ai l'impression qu'on a coupé la poire en deux parce que le projet qui avait été pensé dans les années 50-60, Denis, c'était vraiment la continuité de l'autoroute Félix-Leclerc. Donc la capitale qui meurt dans le fleuve, on était supposé faire un lien là qui allait rejoindre l'autre rive de l'autre côté. Puis ça, c'était le trajet 5 de mémoire. Mais on verra jamais ça parce qu'ils vont dire « Ah, ben il y a l'île d'Orléans là, il y a déjà un pont, ça va être lettre pour les résidents de l'île. » Puis en plus, l'autre bord, dans le secteur de Beaumont, ben les gens vont vouloir aller s'installer là. Puis là, il y a des champs, puis il faut sauver les champs. Fait que là, deux, je pense que Maire Marchand pourra pas dire grand-chose.
Je suis en train de lire les explications de l'analyse de Rémi Nadeau, que j'aime beaucoup, que je salue, qui est auditeur de temps à autre. Puis lui dit que le gouvernement, c'est des questions de budget qui feraient en sorte qu'on aurait retenu ce corridor-là au-delà des autres. Et la raison principale, Yann, c'est que, tu sais, le pont à l'est, mettons, entre la route Lallemand et l'autoroute Dufresne-Montmorency, il aurait fallu que tu traverses pendant 5 km. Alors que le corridor retenu par le gouvernement qu'on va nous annoncer demain, c'est deux fois moins de distance, c'est 2,5 km.
Okay. Puis admettons, Denis, on est dans les hypothèses, mettons qu'on prend notre gros projet de pont de l'île d'Orléans là,
oui,
et on le joint au projet du troisième lien.
Mm-hmm.
On sauverait de l'argent. Ce qui fait en sorte que dans 50 ans, dans 60 ans, dans 80 ans, les gens diraient « Hey, en 2025, ils ont pensé à nous autres. On était rendus là. »
Encore faut-il trouver la façon pratique de faire en sorte qu'il traverse l'île d'Orléans d'une façon ou d'une autre sans qu'on soit aux arrêts pendant toute l'île. Parce que si tu as déjà été à heure de trafic dans ce coin-là, là,
c'est le bordel.
C'est le bordel. Mais faudrait quasiment passer par-dessus ou en dessous.
Le fameux pont de l'île d'Orléans qui va être de toute beauté, soit dit en passant, là, j'ai vu la maquette hier. Le fameux pont de l'île d'Orléans pourrait assez facilement rentrer dans le sol pour se transformer en tunnel, passer en dessous puis développer puis débarquer l'autre bord. Là. T'sais, c'est pas si compliqué que ça.
Mais
c'est juste qu'ils veulent s'entendre avec les politiciens municipaux et provinciaux qui sont anti-troisième lien. C'est la raison pour laquelle ils coupent la poire en deux. Parce que si tu regardes le plan, là, c'est vraiment la moitié. Ils arrivent carrément dans Québec.
Encore faut-il y croire. Encore faut-il croire que ce gouvernement-là va le faire. Moi, j'y crois pas. Je pense que ce qu'on fait présentement, c'est d'étirer le processus le plus longtemps possible pour attendre que la CAQ se fasse laver aux élections. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un autre parti qui est intéressé à ramasser ce projet-là. Est-ce que le gamble, c'est de se faire réélire dans la région de Québec en promettant un troisième lien? Je pense que je ne suis pas le seul à être complètement là, désabusé par rapport à la CAQ. Moi, ils m'ont déjà eu une couple de fois, puis j'ai jamais voté pour eux autres, mais il y a des gens qui ont l'impression de s'être fait avoir par la CAQ une fois puis un autre. Est-ce que ces gens-là vont se pincer le nez puis dire « OK, on les réessaye une autre fois parce qu'ils sont les seuls à nous promettre un projet de troisième lien? » Je pense que même eux autres, ils croient pas vraiment.
Ça va dépendre de qui va être en haut, mais tu sais, moi, ce qui m'impressionne, c'est les intentions de vote. T'sais, la majorité des gens de Québec, à 70 % veulent un troisième lien, mais la majorité des gens de Québec veulent un Paul Saint-Pierre Plamondon pour le Parti québécois pour diriger le Québec, alors qu'il est anti-troisième lien. Puis là, ben, on a à Québec Éric Duhaime qui rentre dans la danse, qui lui veut absolument un troisième lien. Les gens sont compliqués.
Ben, il y a deux choses là-dedans. La première, ça te montre à quel point ce gouvernement-là s'est brûlé dans la région de Québec. Ça, c'est comme un incontournable. Là. Ils peuvent promettre la Lune, ils peuvent promettre Saturne. Les gens ne les croient plus. Tu sais, c'est le seul parti qui donne ce qu'on veut à Québec dans une majorité. Et je pense pas que ça réussisse à faire changer les intentions de vote. Ça, c'est une chose. L'autre chose, appelons ça l'effet Sam Hamad. Le troisième lien, présentement, est populaire à 75 %. Ma prétention, c'est que plus il va se préciser sur les coûts, l'endroit, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, j'ai l'impression que ça va perdre de la pluie. De la pluie. C'est-tu 5 %? C'est-tu 10 %? C'est-tu 20 %? Je le sais pas. Mais tu sais, Sam Hamad, là, avant qu'il sorte, il était très fort dans les appuis parce que Sam Hamad, c'était tout ce que tu voulais. Comme le troisième lien. Le troisième lien, présentement, il est où? Il est où tu veux. C'est un tunnel ou un pont? C'est ce que tu veux. Il passe à l'endroit que tu veux. Mais plus on le précise, moins concrètement, il risque de ressembler à ce que tu pensais que ça allait être. Dans le cas de Sam Hamad, après quelques sorties, convaincu qu'on refait un sondage là, puis les intentions de vote ne sont pas les mêmes. Convaincu qu'il a perdu un 10, peut-être même un 15 %. Est-ce que ça va être la même chose avec le troisième lien? Plus il va se préciser, parlons du projet du gouvernement de la CAQ. Moi, je pense que fondamentalement, le trois quarts des gens de la région de Québec sont d'accord pour un troisième lien. Mais à partir du moment où tu choisis un emplacement, tu commences à diviser. À partir du moment où tu choisis un tunnel ou un pont, tu divises encore plus. À partir du moment où tu dis on en réserve la moitié pour le transport en commun, tu divises encore un petit peu plus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce projet-là va coûter combien? Ils vont le faire? Comment? Concrètement, on est encore très, très loin de nous expliquer tout ça si la seule annonce qu'on fait demain, c'est nous dire on le fait dans ce coin-là.
Mais l'électeur est bipolaire. T'sais, je peux pas comprendre comment tu peux être pro-troisième lien, anti-tramway, puis voter pour un parti qui est pro-tramway, anti-troisième lien.
Les gens n'y croient plus. Je pense qu'ils croient plus aux deux projets. Je pense que les gens, dans les intentions de vote, sont rendus ailleurs parce qu'ils ne croient pas que personne en place présentement sont en mesure de faire avancer ces projets-là.
Il n'y aura pas de tramway non plus.
Mon feeling à date, c'est non.
Tu vois, t'as tes vacances, Denis?
Non, mais c'est parce que...
Il a perdu ses illusions.
Écoute, je regarde ces dossiers-là faire du surplace depuis 10-15 ans, puis je commence à comprendre que les politiciens gagnent du temps, essayent de gagner des votes, mais concrètement, ces dossiers-là, Yann... Il avance pas bien, bien. Puis autant le tramway, même, tu sais, mettons que je serais partisan du tramway, là, le faire goutte à goutte de même en 6 étapes différentes sur 35 ans, là,
ça finit plus.
C'était pas ça le plan de match.
Non,
là.
Non, non.
Donc, même si la partie 1 se fait, on va refaire un débat de 25 ans, c'est la partie 2. Ça va prendre 3 générations de Gravel avant que ce soit utile, ce Moses de patente-là.
Ouais, exact. Sinon, il y a un parti qui va être le premier parti à dévoiler sa liste des engagements. Ça va se passer ce soir. C'est le parti de Stéphane Lachance, qui est le parti Respect citoyen. Ça passe des finances publiques en passant par le logement, l'urbanisme, l'environnement, l'itinérance, les loisirs, la mobilité. Il y a plusieurs engagements. engagement qui vise à renverser les décisions qui ont été prises par Bruno Marchand. En jasant avec Stéphane dans un Marceau soir, il m'avait dit « La première chose que je fais en arrivant dans le bureau de la mairie, c'est d'enlever les 4 années Bruno Marchand. C'est-tu la meilleure façon de fonctionner, la meilleure des choses à dire? Je le sais pas. C'est les citoyens qui vont faire leur choix. Fin de la taxe de 60$ sur l'immatriculation. Fin des restrictions sur le chauffage au bois. Il veut juste anéantir tout le legs de l'administration de Bruno Marchand. Pour ce qui est de la taxe aux chats, je pense qu'on veut enlever ça aussi. Mm-hmm. C'est une bonne stratégie de vouloir anéantir ce que Bruno Marchand a mis en place dans les dernières années?
Comment on se distingue à partir du moment où il y en a deux qui veulent faire ça en partant? Je le sais pas. Il y a 66 résolutions qui vont être présentées exact. Ce soir. Moi, je veux voir du concret. Sa maman déçoit à date parce qu'il n'y en a pas de concret. La stratégie de dire, nous autres, on arrive avec 66 points, j'espère qu'on ne sera pas dans les formules creuses et vagues de dire, on enlève ça puis on ne sait pas par quoi on le remplace. Je pense que c'est le moment où se joue la possibilité électorale de ce parti-là et de ce monsieur-là. Je pense qu'il joue son va-tout ce soir en termes de poker. S'il réussit à impressionner et à retenir l'attention ce soir, il pourra être considéré comme une alternative sérieuse parce qu'à date, Sam Ahmad ne comble pas le vide. Mais je pense que c'est son opportunité au singulier de shiner. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Oui, baisse de 10% des taxes commerciales au jour 1. Il y a un moratoire total et immédiat sur les développements des pistes cyclables. Moi, j'ai eu ça hier. C'est Stéphane qui me l'a envoyé personnellement. Je l'ai lu.
Les 66, là?
C'est super bien détaillé. C'est des gens qui travaillent fort. C'est pas tous des gens que je connaissais. Je connaissais Stéphane, puis un de ses organisateurs sont venus plusieurs fois en entrevue. Mais c'est des gens qui travaillent extrêmement fort, qui chiffrent les choses, contrairement à un Sam Ahmad qui y va un peu plus relax dans le début de sa campagne, là. Mais écoute, c'est le déficit de notoriété. Pour ce qui est de Stéphane Lachance, il s'est concentré sur 2 stations de radio à peu près.
Il s'est brûlé aussi.
Puis il y en a une qui ne voulait jamais le recevoir, c'est le 93, qui ne voulait absolument rien savoir de Stéphane Lachance puis de Respect citoyen. Peut-être en raison de sa position anti-tramway et tout ça, tramway non merci.
Je pense que là-dessus, il s'est brûlé un peu, puis il y a une image à refaire. Est-ce que c'est une bonne façon de refaire son image, de dire « Nous autres, notre programme, c'est de prendre les 4 dernières années puis des sacrés au vidange. » C'est peut-être suffisant, mais je ne suis pas sûr.
Pour les gens qui détestent Bruno Marchand, c'est le fun à entendre en sacrifice.
Ouais, mais les gens...
Sa face passe plus. Pour certains, là, son visage, il s'exprime pas. Il voit dans le Journal de Québec, au dépanneur, il hallucine. C'est une mauvaise journée pour eux. J'ai vu le maire Marchand sur le front du Journal de Québec. Il y a des gens qui le détestent à s'en confesser, Denis.
Ouais, il y a les stations de radio pour ça, mais tu sais, quand on dit envoyer quelqu'un à l'hôtel de ville, moi, il est où le plan? Tu sais, faire des... Il est où le plan?
Ouais.
Ta ville, dans 5 ans, t'as voix comment? Ta ville, dans 10 ans, t'as voix comment? Je l'ai pas, ça. Sa Ahmad me le donne pas. La chance me le donne pas.
Respect Citoyen va montrer sa vision. Il semble avoir une vision. Villeneuve va nous démontrer de belles choses aussi dans les prochaines semaines, à ce qu'on m'a dit. Eux, ce qu'ils souhaitent, Respect Citoyen, c'est la fin de la guerre à l'auto et la fin de la guerre au bungalow. Les gens qui vivent en banlieue, là, on a comme toute l'impression que le maire Marchand ne nous apprécie pas tant. On devrait tous vivre au centre-ville de Québec dans des édifices en hauteur puis prendre le transport en commun. Ben ça va peut-être rassurer ces gens-là qu'il y a un parti qui veut aller à l'hôtel de ville puis qui va être là pour eux.
En même temps, l'ironie de la chose, c'est comme Sam Ahmad qui dit « Moi, je veux pas m'attaquer à Bruno Marchand personnellement et qu'il fait constamment. Moi, je veux faire en sorte que ce soit la fin de la guerre à l'auto en faisant gagner l'auto. » Je veux dire, c'est comme le maire Marchand. T'sais. Moi, je veux pas qu'il y ait de guerre entre les vélos et l'auto en faisant gagner le vélo. Je veux dire, vous entretenez un peu ce spectre-là en sous-entendant si vous votez pour moi dans vos chars, ben vous allez gagner à guerre, ou si vous votez pour moi sur votre bicycle, vous allez gagner à guerre. Puis c'est pour ça qu'il n'y aura plus de guerre, c'est parce qu'on va gagner à guerre. J'ai toujours un peu de misère avec ça. Et c'est justement le côté guerrier de la chance que j'ai toujours eu de la misère un petit peu à cerner. Je comprends que t'es fâché, je comprends que t'es contre, mais tu t'en vas où avec tes affaires?
Ouais. Il s'est ressaisi. Moi, c'est quelque chose que tu m'avais dit, Yann, qu'est-ce que tu penses base de ma façon de me présenter, tout ça. Moi, j'avais dit « be cool ». Tu sais, sois cool. T'es pas toujours sur un pied de guerre partout où tu passes, mais c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est en affaires depuis des années et des années. Puis je pense que dans les dernières semaines, je regarde l'image, pas trop sûr que c'est grâce à moi, mais il a un peu plus de sourire, il est un peu plus jovial avec le monde, il jase. Moi, j'aime beaucoup son idée de, quand c'est des gros projets qui touchent la ville de Québec, c'est des référendums.
Ah, ça, je suis d'accord.
Troisième lien, référendum. Un tramway, référendum. Ça doit passer par les citoyens de Québec. Et ça, c'est une belle idée qu'ils ont, respect citoyen.
Parce qu'on voit que les référendums de quartier servent seulement aux protestataires. Puis moi, de rejoindre les gens par texto, de rejoindre les gens par leurs ordinateurs à partir du moment où ce qu'ils payent des taxes à Québec pour leur poser des questions. Si ça t'intéresse, tu réponds. Si ça t'intéresse pas, tu réponds pas et tu passes à autre chose. Mais c'est peut-être le temps qu'on commence à utiliser la technologie pour faire avancer certains dossiers au lieu de présumer de l'opinion des citoyens. Puis concernant le conseil que tu as donné à M. Lachance d'être chill, regarde comment a commencé la carrière, pas la carrière, mais plutôt la campagne de Sam Ahmad. Sur la défensive beaucoup, contre-attaque les journalistes, puis vous me demandez ça, mais pourquoi vous ne demandez pas à lui, puis vous ne demandez pas à lui. Il y a une de ses candidates qui veut parler, il parle par-dessus. C'est pas bon pour l'image. Tu sais, jouer cool, là, présentement, là, c'est pas un conseil que je donnerais juste à la chance. Je le donnerais à Sam Ahmad aussi, que tout le monde se prenne un petit pas de recul, puis peut-être essayer de trouver justement le bon ton. Puis les gens sont tannés de certaines choses, mais les gens ont hâte aussi d'aspirer à ce que la ville soit mieux dans 5 ou 10 ans. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari. Ouais, OK, tu viens chercher des taxes, mais si je vois le retour, si je vois concrètement ce que ça donne, je suis prêt à embarquer dans ta vision. Le contre, on le connaît. Les gens sont tannés, on le sait aussi. Ça, dans ma tête, en tout cas, je faisais une blague tantôt, puis en même temps, ça n'en était pas une quand je disais que la radio est là pour ça. Tu sais, les bobos, on les connaît. Les solutions, nous autres, on peut pitcher des affaires dans les airs. Mais moi, je m'attends à plus d'un politicien. Je m'attends à une vision très concrète et très claire de comment tu veux que la ville soit dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, le contribuable, là, tu vas me demander quoi, puis ça va être quoi le retour concret que je vais avoir. Dans quelle ville mes enfants vont vivre dans 10 ans quand ils vont être des adultes? T'sais? Ça, moi, c'est des questions qui me touchent pas mal plus de savoir, toi, je t'aime-tu à face ou je t'aime-tu pas à face? T'sais?
Il veut arrêter l'hémorragie au réseau de transport de la capitale. Il dit là où on se démarque, puis là, c'est Stéphane Lachance qui parle, c'est qu'on considère qu'au RTC, il y a beaucoup de travail à faire pour que ce soit un service fonctionnel et fonctionnel et arrête de perdre de l'argent. Ça prend une tutelle, un nouveau directeur, de nouveaux objectifs. On a un système qui marchait avant et on va s'organiser pour que ça marche encore. Puis, bref, ils vont jaser de ça ce soir à la rencontre. Je vais te transférer justement ce que Stéphane Lachance m'a envoyé hier.
Ah oui, donc?
Je vais te le transférer dans les prochaines minutes. Mais somme toute, c'est un nouveau visage qui veut accéder à la mairie de la ville de Québec. Là, on a Sam Ahmad. Il y a un parti qui va être probablement dilapidé, là, qui va se joindre au parti de Sam Ahmad. Là, je pense que...
Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que ces ardeurs-là ont été refroidies par les dernières semaines? Puis en même temps, c'est une bonne nouvelle. Présentement, le trône est disponible pour tout le monde. La course à deux qu'on pensait qu'on allait avoir à date n'est pas partie tant que ça. Quelqu'un peut encore voler la vedette et prendre le lead de cette course-là. Puis c'est tant mieux. Plus il y a de monde, plus il y a de présentations, plus on risque de se retrouver dans quelque chose.
Ton informatrice de prédilection m'écrit à moi.
OK.
Je la salue en passant, je l'aime beaucoup. Côte Salaberry barré à la circulation par une auto de police. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans le secteur et vous êtes au courant du pourquoi, du comment, la Côte Salaberry est barrée, textez-moi au 418-971-1021, 418-971-1021. Ce qui est weird, c'est qu'elle m'écrit à moi puis pas à toi.
C'est qui ton informateur?
Je pense que toutes les histoires commencent comme ça. Tu vas avoir une discussion, mais que t'arrives à la maison à soi.
J'ai pas mes affaires, j'ai pas mon sel.
Hey, je veux m'amuser un peu avec toi. Lane Hudson, qui est un joueur exceptionnel, on en parlait hier, c'est déjà une vedette, mais dans 10 ans, ça va être, d'après moi, un des meilleurs joueurs qu'on aura jamais vu évoluer chez le Canadien de Montréal, avec du recul. On se donne un bon 10 ans. Il vaut-tu 100 millions comme prochain contrat?
C'est un incontournable. Si le Canadien veut gagner une Coupe Stanley, il va falloir en donner des contrats à 100 millions. C'est plate, mais c'est ça. Et ce gars-là vaut-il 100 millions? Ça, c'est le problème avec les contrats Ligue nationale de hockey. tu vaux plus 100 millions quand on te donne 100 millions. Tu valais 100 millions avant qu'on te donne le contrat de 100 millions. Je sais pas si tu me suis.
Oui,
un
puis
peu.
On voit de l'espoir en toi, fait qu'on dit, regarde, on va te donner 100 millions, puis nous autres, on va rentrer dans notre argent.
Combien David Pastrnak a signé son contrat récemment?
7-8.
Quelque chose de même, là, peut-être même un petit peu plus que ça. Mais les meilleures années de David Pastrnak, elles sont déjà derrière parce que la qualité de la franchise n'est pas la même pour les Bruins de Boston. Mais on a l'impression que ces grosses années, il les a déjà données. Vous allez me dire que les gardiens de but, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça. Puis en même temps, bien, je vais rester dans des joueurs que je connais. Jeremy Swayman a eu une saison très ordinaire alors qu'il a fait, il a décroché le jackpot. Mais les meilleurs services qu'il a rendus aux Bruins, c'est avant. Et souvent... Dans le sport professionnel, c'est ça. Tes gros contrats, tes signes, mais t'as plus ce valeur-là. Par contre, des joueurs de franchise, à un moment donné, il faut que tu le donnes. Et Lane Hudson, en gagnant le trophée de la recrue de l'année, ben, sa valeur vient de monter d'un cran là, de façon instantanée. Là.
Peut-être que tu pourrais vérifier, mais c'est autour de 90 millions pour 8 ans pour David Pastrnak.
Ouais, ouais, ça ressemble à ça, effectivement.
Donc, c'est un gros montant, mais qu'est-ce que tu donnes à Lane Hudson? Quand tu as dit, c'est le directeur général du Canadien de Montréal qui a mentionné qu'il allait avoir personne qui allait gagner plus cher que le capitaine Nick Suzuki. Mm-hmm. Là, t'es dans le trouble.
Puis en même temps, si tu y donnes pas, quelqu'un d'autre va y donner dès qu'il va être disponible. Là, je veux dire, tout le monde va vouloir Lane Hudson, recrue de l'année. Là. Le fabricant de jeux par excellence, puis le gars qui a fait mentir tous les critiques et tous les sceptiques. C'est le beau problème à gérer, mais c'est quand même la réalité, si tu veux. Et c'est des gambles, parce que les joueurs que tu t'attaches pendant une durée très longue, il faut que tu t'assures que c'est des gars qui vont être bons, non seulement bons, mais excellents tout ce temps-là, tu sais.
Mais Théo, il faut que tu prennes en compte aussi un contrat de 100 millions vaut plus un contrat de 100 millions, dans le sens, la masse salariale va augmenter grandement. Là. Présentement, elle est à 88 millions, mais d'ici 2027-2028, la masse salariale serait à 113,5 millions. Donc, c'est quand même 25,5 millions d'augmentation qu'on va avoir, fait que
il va avoir du lousse.
Les contrats vont être de plus en plus gros.
Ben oui.
Mais 100 millions pour Lane Hudson, ça semble gros quand même. Pastrnak, c'est un 90 millions sur 8 ans, 11,25 millions par année. Lane Hudson, 100 millions, ça serait un 12,5 millions par année. Là.
Ouais, je regardais la chronique de Jean-Nicolas Blanchet dans le Journal de Québec. Dis-lui, là, Lane Hudson a fermé la gueule à tout le monde. Certains pensaient qu'il n'allait pas être si bon que ça dans la NCAA. Faux. 61 joueurs ont été préférés à Lane Hudson au repêchage parce qu'il n'était pas si gros que ça. Et cette année, ben, il était meilleur que tous les 61 joueurs qui ont été choisis avant lui. Plusieurs pensaient qu'il allait avoir besoin d'une année dans la Ligue américaine pour s'ajuster au hockey professionnel. Non. Certains ne croyaient pas qu'il allait pouvoir diriger un jeu de puissance dès son année recrue. C'est faux. Plusieurs pensaient qu'il allait ralentir en deuxième moitié de saison en raison de la fatigue et de son manque d'expérience. Encore une fois, c'est faux. Nombreux sont ceux qui s'inquiétaient de le voir disparaître en série avec le jeu physique. Il a été présent. Certains croyaient que Dustin Wolf chaufferait Hudson pour le Calder. Mm. Ça n'a même pas été proche. Donc lui, il dit... Il y a des chances que ce soit un contrat de 100 millions. Ce serait le premier contrat à 100 millions du Canadien de Montréal parce que l'autre, c'était Carey Price, 84 millions de dollars.
Ouais.
Puis t'es là, Mikko Rantanen vient de signer un contrat, 96 millions sur 8 ans, fait que 12 millions par année. Là. Ça veut dire que Dane Hudson signerait son contrat plus cher que ce que Rantanen vient de signer. C'est beaucoup, 12,5 millions. Là. C'est énorme.
12,5 US pendant 8 ans, là, c'est un total de 137 millions de dollars en devises canadiennes.
Ouais.
Et que c'est du cash. Puis là, il faut que tu choisisses qui tu vas garder à long terme pour les 5 à 10 prochaines années. Parce que
c'est dommage que j'ai été trop petit, puis je l'aurais fait la Ligue nationale.
Ils disent tout ça. Hein? Cole Caulfield, tu le gardes-tu à long terme? Suzuki, le capitaine, qui te fournit un rendement extraordinaire, est-ce que tu le gardes au-dessus du salaire que tu vas donner à Lane Hudson et les autres? C'est des beaux problèmes à gérer, puis en même temps, ben, c'est les choix que le Canadien va faire qui vont faire en sorte qu'ils vont gagner une Coupe Stanley dans les 5 prochaines années ou ils vont manquer leur coup encore une fois. Ils ont choisi Carey Price, ils ont choisi Piqué Subban. 0-2. On a vu les résultats.
Exact.
Mais présentement, des joueurs comme Suzuki, Caulfield, Slafkovski, Goulet, c'est signé à long terme. Fait que si tu regardes la banque d'espoir, il y a quand même moyen de jouer avec le plafond puis réussir à garder tous les jeunes morceaux qu'on a en ce moment.
Espérons-le.
Oui, puis Denis, la porte est toujours ouverte, tu dis. Les Browns, tu t'embarques dans quoi, 5, 6, 7 ans de misère?
Ouais, on
moi,
va aller.
Je suis prêt à t'accueillir dans ma famille.
Je m'en vais à Boston cet été. Il va toucher à la patte de l'ours, la petite sculpture en rentrant. On lâche pas, on lâche pas.
Hey, ça serait chien sale en sacrement si les gars au RTC, les gars de garage, décidaient de faire une grève générale illimitée pendant le Festival d'été de Québec.
Pas cool. Vraiment pas cool.
Ça serait vraiment chien sale.
Il me semble que c'est pas la première année là, qu'on laisse planer cette menace-là. Pour le bien collectif, c'est pas des semaines que j'envisagerais pour faire chier le monde. Okay. On va dire comme ça.
Mais c'est ce qu'ils veulent peut-être faire, parce qu'ils disent, nous autres, il faut que ça se règle de notre bord. Puis tu sais, d'un autre côté, là, c'est normal de vouloir négocier des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail année après année. Moi, je considère ça tout à fait normal. Le problème étant, c'est qu'eux autres, ils ont comme un outil de plus pour aller chercher ce qu'ils veulent que la population ne peut pas avoir, tu sais, quand ils négocient avec leur employeur.
D'autant plus que c'est le seul moment dans l'année où il n'y en a à peu près pas de critiques envers le service du RTC, parce qu'avec les navettes et tout ça, les gens qui utilisent le service semblent très satisfaits de comment on gère les allées et venues du festival d'été avec le transport en commun et tout ça. T'enlèves ça au RTC à la fin de l'année, t'as plus de gens critiques, t'as plus de gens déçus, t'as plus de gens fâchés. Si ton service ne tire pas, ça ne veut pas dire que tu vas garder ta job indéfiniment non plus. Moi, je travaille pour une shop. Ultimement, je veux pas qu'à la fin de l'année, j'y aille fait du tort parce que je négociais mes affaires. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ces semaines-là, là, c'est les semaines où le RTC brille. Si tu les enlèves, toi aussi, tu t'enlèves quelque chose, à mon humble avis. Je comprends la menace pour négocier. Je ne mettrai jamais cette menace-là à exécution, par exemple.
Les gens qui travaillaient au tribunal administratif du travail, là, qui ont pris cette cause-là à savoir si le RTC, le réseau de transport de la capitale, est un service essentiel ou non, là, quand ils ont dit non, ça n'est pas un. Là.
C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise décision. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaye de nous dire depuis 10-15 ans.
Oui, puis, tu sais, c'est un autre dossier, mais je veux dire, si les policiers décidaient de ne plus être des polices là, pendant deux semaines, ça donne quoi dans une société? C'est un service que la population doit avoir.
Mais oui.
Comme le transport en commun, comme les ambulanciers, comme les pompiers, ces gens-là ne devraient pas avoir le droit de grève. Est-ce qu'ils peuvent faire des trucs pour faire fâcher l'employeur? Moi, je vais être derrière eux.
Ah oui.
Mais quand tu t'adresses à la population, tu sais, les gens les moins bien nantis qui se démènent pour aller travailler, qui prennent l'autobus tous les jours, hey, vous attaquez à ces gens-là. Ça devrait être considéré comme un service essentiel. Je peux pas croire que le tribunal administratif du travail peut pas revoir cette décision-là.
Ce qui est horrible, dans une certaine mesure, avec le RTC puis les possibilités de grève, c'est que les gens qui négocient leur salaire gagnent plus que les gens qui vont écoper de cette grève-là. À 90 % des cas, ou à peu près.
Oui.
Je veux dire, tu as très bien résumé le problème. Le problème, c'est que c'est les gens les moins nantis qui vont travailler en autobus. C'est de même que ça fonctionne et c'est pour ça qu'on a bâti ce service-là. Les gens moins bien nantis, c'est eux autres qui vont être pénalisés puis qui vont se retrouver littéralement le bec à l'eau pendant que des gens se négocient des salaires et ils ont le droit de le faire, mais ils gagnent déjà plus que les gens qui sont dans l'autobus qui n'auront pas accès à l'autobus.
Il y a un auditeur qui nous écrit, puis on en avait déjà parlé, toi et moi, tu sais, la meilleure chose que ces gens-là peuvent faire, c'est d'essayer de mettre la population derrière eux.
Absolument.
Lui, il dit, continue le service pareil, juste à pas charger les clients.
Gratis!
Faudrait qu'il y ait une entente avec les chauffeurs. Mais il y en a déjà une entente avec les chauffeurs parce que quand il y a eu la première grève de deux jours, là, il aurait pu avoir une journée sur deux de service parce que la fameuse évaluation que le mécanicien, quand il fait le tour du véhicule, là, ça dure 48 heures. Donc, techniquement, on aurait pu avoir une journée sur deux avec le réseau de transport de la capitale qui fonctionne.
Ouais.
Sauf que syndicat par syndicat, ils se sont dit « Hey, nous autres, on se tient ensemble. » Donc, on a dit aux chauffeurs « Restez à la maison. » Les chauffeurs ont eu une perte de salaire aussi à ce mm-hmm. niveau-là. Tu sais, c'est weird. Mais si les chauffeurs peuvent faire ça pour aider leurs collègues mécaniciens, moi, je suis derrière eux, là, chargé à personne.
Puis en même temps, il y en a qui sont des partisans de ça, le transport en commun gratuit. Regardons ce que ça fait à l'achalandage, juste par curiosité. Tu sais, c'est une expérience de société qui n'est pas détestable. Le consommateur qui rentre gratis dans l'autobus va être très content de t'encourager dans ta cause et dans ta lutte salariale. Puis de l'autre bord, ben, quand l'argent ne rentre pas, c'est pas trop long qu'on essaye de régler les affaires. Je ne vois que du bon moi, dans une initiative comme celle-là, comparativement à dire on rentre en grève générale illimitée pendant la période où on a le plus besoin du RTC de l'année en plein cœur du festival d'été. T'sais.
Mais les syndicats n'ont pas nécessairement besoin de la population.
Ouais, écoute, ça fait longtemps que... C'est,
nous autres, c'est... on est là, on veut être amis avec eux.
Non.
Continuez de nous aider. C'est continuer de ramasser nos vidanges, continuer de transporter nos pauvres, s'il vous plaît, on veut être amis avec vous autres.
On
essaie de trouver des façons de faire pour faire suer l'employeur, puis non, ça va être... Peut-être pas de transport en commun pendant le Festival d'été de Québec.
Les patrons, les élus, les syndicats, sont-ils une maudite gang à se sacrer de nous autres, hein, en bout de ligne?
Oui, vraiment. C'est, la bonne nouvelle, c'est que nous autres, on est en char.
Ouais, c'est ça. On fait notre bout.
Boy. Midi 29, Denis Gravel, je te souhaite de passer une belle journée.
Thank
on t'écoute
you.
À 14h tantôt avec Véro et Audrey. Est-ce qu'on a plus de détails là, sur la rue fermée, Côte Salisbury?
Vois rien de ce côté-là, bon, honnêtement.
Si vous voyez quoi
là,
que ce soit, 418-971-1021, ça a l'air que la côte Salisbury a été fermée dans les dernières minutes. Donc, merci de nous en informer. Par texto, midi 30, on vient.